تس الو الو
Après, c'est vraiment pas le bon moment.
Ah, ben oui. Donc, l'autre, c'est pas, ça a dû marcher, c'est une pensée, finalement? Là, je prends ça parce que l'autre, il n'est plus disponible.
Parce que Yannick, il veut son micro.
Ah, il veut l'avoir là? Ouais. Ah. L'espèce.
He's pulling rank on you.
Ouais, c'est ça, c'est pulling rank. J'ai pas grand-chose à dire, ça. Là. Bon. Ça marche-tu déjà, cette affaire-là?
Non, il fonctionne.
Il fonctionne, là?
Ouais. Il n'y a pas de patte.
J'ai pas besoin de peser sur le piton ici. C'est que dans l'enregistrement, vous allez entendre toutes ces hésitations-là de ma part. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier pour avant qu'on commence? Je vais le faire, sinon. Ouais, c'est ça, c'est moi qui ai le micro. Est-ce que vous n'êtes pas être enregistré? Merci Seigneur pour ce temps ce matin encore. Merci pour ta parole. Merci parce que tes enfants. Lisent tes Écritures, leur font confiance et ça me fait plaisir de voir ça ce matin, M. Prévost, qui est allé voir dans le texte, Seigneur, et on veut apprendre de toi, on veut apprendre de ce que tu as à nous enseigner, puis on veut apprendre à te connaître aussi à travers la Genèse. On veut te remercier parce que tu te révèles comme un Dieu tout-puissant, un Dieu d'ordre, un Dieu aussi qui relationnel, qui veut rentrer en relation avec nous, puis qui nous aime, et plus on va avancer, plus on va le constater dans le texte, Seigneur. Et je te remercie pour ça. Merci pour tous les étudiants ce matin. Merci parce que tu m'enseignes aussi, Seigneur. Et je te prie de bénir notre temps ensemble. Amen. Est-ce qu'il y avait des questions avant qu'on revienne sur certains points suite à la semaine dernière? Il ne faut pas se gêner. Hein? La semaine dernière, on était rendu dans la deuxième journée. Et on a terminé rapidement la deuxième journée, puis je vous ai expliqué ce que le texte nous disait, ce qui expliquait ce que Dieu avait fait dans la deuxième journée. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer, dans ses propres mots, qu'est-ce qui s'est passé dans le deuxième jour de création? Dans vos propres mots, qu'est-ce que Dieu a fait, là, qu'est-ce qui a changé dans le deuxième jour? Et séparer les eaux des eaux, puis dans les faits, qu'est-ce qui était différent donc après coup? Après qu'elle a fait ça, il y avait quoi de nouveau? Ça, c'est le troisième jour, on va y arriver. Donc, en séparant les eaux avec les eaux, ça l'a fait deux choses du même coup. Qu'est-ce qui est apparu en séparant? C'est qu'on s'est ramassé en séparant les eaux avec les eaux. Il y a des eaux qui n'étaient plus à la surface directe du globe, se sont ramassés au-dessus de l'atmosphère, on va le voir, mais c'est ça. Donc, ça a formé une couche d'eau, un vapor canopy, une couche d'eau sous forme de vapeur au-dessus d'un espace qui a été créé entre les deux couches d'eau. Puis le texte nous donne un nom pour cet espace-là. C'est quoi le nom qui est donné pour l'espace qui a résulté de la séparation des eaux avec les eaux? Nous, on appelle ça l'atmosphère. Dans le texte, ils lui ont donné le nom de ciel. Vous irez voir, il a appelé cette étendue du nom de ciel. Le même terme que cieux dans le verset 1. C'est que, parce que le mot hébreu pour cieux peut juste vouloir dire un espace. Dans ce cas-ci, c'est l'espace qui est entre les eaux et les eaux. Est-ce que au niveau de la trois dimensions, vous catchez là, ce qui s'est passé? Là, tout le monde, c'est clair. Vous avez une sphère. Puis c'est comme, puis là, on se ramasse avec une sphère plus grande par-dessus la sphère, puis il y a un espace entre les deux. Est-ce que ça, c'est clair? C'est comme un orange avec la pleure d'orange. C'est comme si on soufflait de l'air entre la pulpe d'orange et la pleure. Là. Bon, OK? C'est vraiment ça ici. Puis si vous lisez le texte, c'est clairement ça aussi qui est décrit. Il ne parle pas ici que de la formation, que Dieu a créé des nuages. Là. Il y a vraiment l'idée que Dieu a séparé les eaux d'avec les eaux. On n'a pas ça aujourd'hui. Ça, c'est une des choses qu'on n'a pas aujourd'hui. Lorsqu'on on traverse l'atmosphère, on va rencontrer des gaz dans l'atmosphère. On rencontre entre autres la couche d'ozone qui est un petit peu massacrée par les dernières décennies. Mais on n'a pas une couche d'eau particulière en montant qui couvrirait toute l'atmosphère. Là, on a conclu probablement qu'elle était sous forme de vapeur parce que, entre autres, il faut être capable de voir les astres. Et on va voir plus tard, quand Dieu crée les astres, ça va servir pour l'être humain, pour s'orienter dans le temps et dans l'espace. Donc, il faut pas que ça soit opaque. Il ne fallait pas que ça soit, mettons, des nuages. C'est vraiment une forme d'eau sous forme de vapeur. Maintenant, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas ça aujourd'hui? On en a parlé brièvement. Pourquoi on ne l'a plus aujourd'hui? Quand est-ce que ça a disparu, cette histoire-là? Au déluge, Dieu s'est servi. Puis on va y arriver dans le texte, mais vous irez voir dans Genèse, au début de Genèse 7. Je peux même le lire tout de suite, au début de Genèse 7. Verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le deuxième mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. Les écluses du ciel s'ouvrirent, une référence directe ici avec la couche d'eau qui était là, puis c'est Dieu a causé qu'elle s'ouvre et qu'elle se déverse pendant 40 jours et 40 nuits sur la terre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a plus cette couche d'eau-là, puis entre autres, c'est pour ça que dans 2 Pierre ou 1 Pierre, il faudrait que je retrouve le verset. Il y a quelqu'un par cœur, ça rappelle-tu lorsque ça dit que dans les jours de Noé, je pense que c'est dans 1 Pierre, que durant les jours de Noé, il y a eu la prédication dans l'Ancien Monde. Y a-t-il quelqu'un, ça leur dit quelque chose, ce texte-là? Faudrait que j'aille voir, là, mais... Ça, oui, ça c'est dans 2 Pierre 3, le texte qu'on voit souvent. Il y a un autre texte dans 1 Pierre ou 2 Pierre qui fait référence à Noé, au jour de la prédication... de Noé. Puis dans ce texte-là, ça fait référence à l'Ancien Monde. Tu utilises le terme Ancien Monde versus le Nouveau Monde. J'aurais dû le prendre en note, là. Je m'excuse, là. J'ai pas ça direct là. Mais c'est 1 Pierre ou 2. Peu importe. Je pense que c'est une des raisons majeures pourquoi le monde est différent d'avant le déluge, d'après le déluge. Maintenant, je vous ai garoché, pour utiliser un bon terme français, toute une série de conséquences qu'on peut deviner, qu'on peut s'imaginer de cette présence de couches d'eau-là au-dessus de l'atmosphère. Puis je vais y revenir un petit peu plus en détail. Il y en a certaines qui sont claires dans le texte, il y en a d'autres, c'est nos connaissances d'observation scientifique qu'on peut déduire et s'imaginer qu'est-ce qui devait se passer à cette époque-là avec une couche d'eau. Donc, une des premières choses que j'ai mentionnées, c'est qu'imaginez-vous si on a une couche d'eau qui entourait la planète au complet, on se ramasse avec un effet de serre qu'on appelle. On le vit aujourd'hui, cet effet de serre-là, lorsqu'il y a trop de pollution puis de polluants dans l'atmosphère. Ce que ça fait en réalité, c'est que les rayons du soleil qui viennent frapper la surface terrestre, ils sont réfléchis normalement vers l'atmosphère, vers l'univers, si on veut. Mais si, mettons, il y a des nuages une certaine nuit ou s'il y a des polluants aussi dans l'atmosphère, c'est que les rayons du soleil sont réfléchis de retour vers la Terre. C'est que ça fait de la chaleur qui se conserve. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Ça fait une augmentation de la chaleur en général dans l'atmosphère. Mais si à l'époque, je pense que je vais fermer la porte. Là. Excusez-moi, j'ai l'impression que je parle dehors. C'est que si on avait une couche d'eau à grandeur de l'atmosphère, pouvez-vous imaginer que les rayons de soleil qui perçaient, qui venaient ici sur la Terre, frappaient la Terre. Donc, il n'y avait pas de... Là, on va en reparler. Il n'y avait pas nécessairement de couverture nuageuse. C'est que les rayons rentraient... On peut facilement s'imaginer que les rayons rentraient, puis revenaient frapper la couche d'eau, revenaient, rentraient. Il y en avait certains qui pouvaient s'échapper, mais en grande partie, on avait vraiment un effet de serre où il y avait une redistribution de la chaleur d'une façon plus ou moins égale au niveau du globe au complet. C'est qu'on n'avait pas ça à l'époque, des températures très différentes entre les pôles, puis une légère différence, mais jamais pour dire qu'il n'y aurait aucun endroit sur la planète qui n'aurait pas fait bon vivre. Tout nu. Excusez-moi de dire tout nu, là, mais tout le monde était tout nu. C'est que l'idée, il fallait que ce soit confortable pour l'être humain de vivre partout sur la Terre, parce que Dieu a dit éventuellement de se multiplier puis de remplir la Terre. Okay? C'est qu'il n'y avait pas les grosses variations qu'on a au niveau de la température sur la planète, principalement à cause de ça. Puis ça fait du sens aussi dans toute l'idée que Dieu a voulu donner un endroit qui était bon de vivre pour l'être humain. Juste le Jardin d'Éden, qui est un endroit très spécifique, lorsqu'on va y arriver, j'y viens, M. Élie, vous allez voir comment c'est fait c'est fait d'abondance, c'était beau, c'était bon à manger, les fruits étaient bons à manger, étaient beaux à regarder, tout était beau et bien, et ça, Dieu l'a fait pour que l'homme et la femme puissent en profiter. Mais on peut s'imaginer que le reste de la planète aussi, c'était ça l'idée, c'est que ça soit confortable puis bon vivre. Oui, M. Élie. Oui, c'est ça. Vous me devancez. Oui, certainement qu'on. Encore là, c'est une conclusion qu'on apporte.
Parce que c'est là que tu apportes les saisons. En ce moment-là, quand il y a, je fais froid ou chaud, il aurait pu tolérer le froid et le chaud, non?
Oui. Donc, c'est ça. Dans le fond, je vais le mentionner tout de suite. Donc, M. Élie parle de l'axe d'inclinaison, de la rotation de la Terre. Vous savez, pour ceux qui ne se rappellent plus de vos cours à l'école, la Terre tourne sur elle-même. À ce moment-là, même si le soleil n'est pas créé, moi, je crois que c'était le cas, même si ce n'est pas marqué clairement dans le texte, étant donné qu'il y avait déjà une alternance jour-nuit, puis que la lumière était déjà créée, la lumière intrinsèque, la lumière comme telle était déjà créée, on peut penser que la Terre est en rotation, puis à moins que quelque chose s'est passé qui ne nous a pas été dit dans l'histoire de l'humanité, parce qu'on le sait aujourd'hui que la rotation se fait sur un axe. Okay, la Terre tourne sur elle-même, mais dans un axe de 22,5, peu importe. C'est qu'à moins que le déluge ait shaké à terre à un point tel, puis ça allait changer d'axe de rotation. Si on s'imagine qu'il y avait déjà un axe de rotation plus ou moins incliné, puis que la lumière vient d'une source d'un côté, oui, à cause que l'axe de rotation est incliné, on peut se ramasser avec des légères différences de climat, de température, OK? Parce que ce n'est pas le même apport de chaleur direct d'un côté à cause de l'inclinaison. C'est que sans aller dans les détails, ça pourrait expliquer certainement d'une partie à l'autre du globe, des légères différences qui pourraient justifier l'appellation de saison, même qu'on voit dans le premier chapitre. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Il ne faut pas oublier, il n'y a pas de place inhabitable sur la Terre ou avec des conditions adverses, où est-ce que c'était difficile de vivre. Il n'y avait pas les pôles, il n'y avait pas les froids sibériens, puis il n'y avait pas les déserts où est-ce que c'était trop sec ou des places juste trop humides, puis tu n'as pas d'eau, puis tu n'as pas de bouffe. Là. C'était pas ça, puis pas de végétation. Non, c'est pas ça, c'était pas ça du tout. Là, mais on n'est même pas rendu ici. Là, à ce point-là, il ne faut pas oublier, j'ai fait des vagues ici, il y a juste de l'eau à la surface de la Terre. Il y a juste de l'eau, puis même la matière s'en met en suspension dans l'eau encore. Oui, il y a la force de gravité, mais nulle part, ça nous est mentionné que quoi que ce soit de solide qui a été bâti encore. Oui, Dominique? Monsieur Lavoie, c'est... Guy, c'est ça, hein? Le Duc. Le Duc, c'est ça, oui. Mm-hmm. Oui. Tout à fait. Donc, ce que Dominique Collin dit, c'est que on a plusieurs indices. On a fait des découvertes de fossiles ou même de fossiles ou de plantes gelées, carrément congelées dans des endroits. Des plantes sont typiquement subtropicales ou des animaux qui seraient typiquement trouvés dans des milieux plus tropicaux, mais qui ont été trouvés dans des endroits comme en Sibérie. Pour comment ils se sont ramassés là, on pourrait imaginer plein d'explications, mais entre autres, c'est probablement parce qu'ils vivaient tout simplement là ou durant le déluge. Oui, il vivait peut-être là. Il y a une autre explication, c'est que durant le déluge, c'est bien possible qu'il y a eu bien du charriage aussi de trucs, OK? Excusez-moi le terme, là, mais il y a bien des affaires qui sont faites charrier, mais bon, sont-ils faites charrier sur des milliers de kilomètres? Bon, peu importe, mais oui, il y a les deux choses vont ensemble. Mais tout à fait. C'est que ça, c'est probablement une des choses les plus importantes, des conséquences les plus évidentes. Mais il y en a beaucoup d'autres aussi. C'est-à-dire, si on se ramasse avec une température plus ou moins égale, okay, c'est toujours plus ou moins égale au niveau latitudinal, en tout cas, whatever, gauche-droite, il y a aussi une question en élévation aussi, okay, en altitude aussi. Il y a aussi, les différences de température sont Au pire, légère, parce qu'on n'est pas encore à la couche d'eau répartie la chaleur égale aussi au niveau de l'altitude, puis longitude et latitude sur la planète. C'est que si on n'a pas des gros changements de température en montant, puis ni en, de gauche-droite, mais c'est, ça empêche les grands mouvements d'air, parce que tous les gros systèmes de tempête qu'on a ou d'ouragan ou les gros systèmes de mouvement de masse d'air sont tous dépendants de différences de température qui font en sorte qu'il y a des différences de pression, puis ça fait des gros mouvements d'air. Avec tout ce qui est question de circulation aérienne globale et de masse d'air de tempête, puis ça fait du sens parce que c'est pas encore super cool les tempêtes. Hein. Je veux dire, on parle d'une création qui est bonne puis qui est bien pour l'être humain, c'est que je veux dire des ouragans et des patentes de même. Ça va pas dans le sens de la belle création de Genèse 1. C'est pour ceux là, qui avaient des gros problèmes théologiques, parce que vous avez ici ça, les ouragans, vous avez des réponses maintenant. Mais probablement, ça, c'était pratiquement absent. L'autre chose qui ne devait pas se passer, c'est qu'on ne devait pas avoir le même cycle hydrologique que maintenant. Le cycle hydrologique, c'est l'idée que l'eau part par évaporation là, de toutes les masses d'air, les masses d'eau sur la planète, dont les océans, tout ça. Puis en montant dans les airs, il y a un effet de condensation. C'est que l'eau se ramasse sous forme de vapeur, sous forme de gouttelettes dans les nuages, puis c'est transporté par les masses d'air, puis ça va retomber sous forme de pluie à différents endroits. Mais ce voyage-là de l'eau, étant donné que justement, il n'y avait pas de mouvement d'air, de grandes masses d'air, étant donné qu'il n'y a pas de grand différentiel de température, bien, la formation de nuages, c'était quelque chose qui ne se produisait même pas avant le déluge. C'est que ultimement, on se ramassait à ne pas avoir de pluie, donc pas de neige. Là. La neige, c'est de la pluie gelée. Je vous apprends des affaires le matin. Mais donc, il n'y avait pas ça non plus. On peut conclure qu'il n'y avait pas ça. Puis encore là, imaginez-vous, vous êtes nu, vous êtes supposé être super confortable puis être dans un endroit parfait. Bien, c'est pas super cool la pluie non plus. Moi, je trouve pas ça cool quand je suis tout nu dehors à avoir de la pluie. C'est que ça m'arrive jamais en passant, mais je trouve pas ça cool. Je peux comprendre que ça fait du sens, OK? Que pour toutes sortes de choses, le confort, tu te fais une habitation, tu élèves ta famille, tout était parfait à l'époque. Puis on va voir comment Dieu a créé les choses pour que quand même la végétation s'abreuve. On a des réponses dans Genèse 2 de ça, sous une forme d'évaporation locale. Qu'on pourrait appeler une forme de rosée. Puis on avait parlé d'un autre indice à part Genèse 2 qui nous spécifie. D'ailleurs, Genèse 2 dit clairement qu'il n'y avait pas de pluie à cette époque-là. On va y arriver à ce verset-là. Mais Dieu faisait toutefois monter de la vapeur qui se redistribuait sur la terre pour nourrir les plantes. On va y arriver, mais qu'on soit là dans Genèse 2. Exactement. C'est que juste le changement de température jour-nuit, parce que quand même, il y a une partie de la planète qui n'avait pas de lumière pendant une partie de la journée, tu n'as pas de lumière, puis tu en as le lendemain matin, tu as quand même un différentiel qui se crée.
Ce qui encourageait quand même une petite circulation d'air.
Oui, c'est sûr qu'il peut en avoir. Ça peut être, comme je dis, c'est jamais rien de 100% catégorique, mais juste le chapitre 2 qui parle de la formation de rosée ou de condensation, ça nécessite quand même un changement de température, mais entre le jour et la nuit, c'est clair qu'il y en a un. Puis le matin, vous en remarquerez, les matins qui ont le plus de rosée, c'est quand? Durant l'année, les matins qui ont le plus de rosée? Mais c'est les nuits qui ne sont pas couvertes, qu'il n'y a pas de couverture nuageuse, parce que vu qu'il n'y a pas l'effet de serre, vu que la chaleur est moins retenue par les nuages, donc la différence entre le matin et la nuit au niveau de la température est plus forte, parce que l'énergie solaire, la lumière qui est venue, les rayons solaires se sont redispersés et n'ont pas été retenus. C'est que vous remarquerez que les matins, surtout les premiers matins d'une première nuit qui n'est pas couverte par les nuages, ce matin-là particulièrement, le gazon est mouillé en titi. C'est que juste ce phénomène-là, étant donné qu'il n'y a pas de nuages à l'époque, se produisait journalièrement. Là. C'est que chaque matin, la végétation pouvait être drainée, pouvait se nourrir, s'abreuver de cette forme de rosée-là. Donc, pas de nuages. Puis on a parlé aussi du fait que l'arc-en-ciel n'était pas présent. Dieu s'est servi. Dans le fond, l'arc-en-ciel, pour avoir un arc-en-ciel, il faut être de la pluie, il faut être des couvertures nuageuses avec le soleil en même temps. Donc, c'est intéressant que Dieu a pris un phénomène naturel dans sa création qui allait se développer du fait même qu'il n'y avait plus la couche d'eau après le déluge. Fait que le premier arc-en-ciel a apparu. Puis Dieu s'est servi de tout ça comme un signe d'alliance entre l'être humain et lui. Mais Dieu n'a pas comme... De la façon dont c'est passé, pas Dieu, il n'a pas pogné un arc-en-ciel puis il l'a pitché là. Ça s'est produit naturellement. Ça allait se produire d'après les lois que Dieu avait mis dans l'univers. L'arc-en-ciel s'est finalement produit parce qu'on n'avait plus la couche d'eau après le déluge. Un autre bel indice qu'on a, parce que faut comprendre que pour Noé, il avait vécu 600 ans. Ben, c'était la première fois qu'il voyait cette bébite-là dans l'air. Là. C'était assez impressionnant de voir des couleurs. Je veux dire, c'était impressionnant pour nos enfants la première fois qu'ils voient un arc-en-ciel. c'est quelque chose. Je veux dire, ça a une forme, ça a un ordre particulier de couleur. Puis si tu n'as aucune idée de la physique qui se passe, tu es tout le temps impressionné. T'sais. Au pire, tu préfères croire à ton enfant que c'est de la magie. T'sais. Bon. Ceci étant dit, c'est un autre indice qu'on avait. Évidemment, cette couche de vapeur-là semblait ne précipitait pas. Entre autres, une des choses qui fait précipiter les nuages, qui font que les nuages tombent sous forme de pluie, c'est parce qu'il y a de la turbulence dans l'atmosphère. C'est parce que des particules sont envoyées, il y a de la turbulence, il y a du mouvement d'air, ce n'était pas le cas. C'est que la couche d'eau demeurait là. On avait certainement aussi, au niveau de la planète, un taux d'humidité plus ou moins uniforme et confortable. C'est que toute cette idée-là d'effet de serre, puis le mouvement, on avait certainement une humidité qui était uniforme et confortable, qui va encore dans le bon sens d'une création qui était bonne. On a parlé quand même des condensations locales et tout. Là. Et tout ça ensemble fait en sorte que lorsque Dieu va justement créer la végétation, on se ramasse avec une végétation riche, mais à grandeur de la planète. T'sais, riche en abondance, en qualité. Il devait y en avoir partout. Pas de zone où il n'y avait pas de végétation qui était capable de croître. D'ailleurs, lorsque Dieu crée la végétation, il en crée partout, qui se multiplie partout. Okay? C'est qu'on avait les conditions météo idéales pour avoir de la végétation de ce style-là partout. Puis finalement, et non le moindre, ça c'est un autre... deux autres choses. Les deux autres points qu'on peut conclure aussi, c'est des points qui expliqueraient pourquoi autant les animaux que les êtres humains avaient une meilleure santé, puis vivaient plus longtemps, puis vivaient plus grand aussi. Le prochain point expliquerait le gigantisme, donc l'idée qu'on trouve beaucoup de géants chez les végétaux, chez les animaux, puis chez les humains. On constate ça chez les fossiles. Puis on le constate aussi dans les textes bibliques. Vous en remarquerez, si vous avez lu un peu l'Ancien Testament, vous allez voir qu'on nous parle de géants assez vite. On nous en parle dans Genèse 6 avant le déluge. On nous en parle quand le peuple d'Israël arrive pour conquérir des pays. Il y avait encore des tribus puis des peuples où il y avait des géants, les fils d'Anak, entre autres, des trucs comme ça. On va aller lire Job, éventuellement, on va le voir, Job d'ailleurs. Job, qui est probablement un livre assez ancien, Job a probablement vécu... Il fallait que je revoie mes notes, mais je pense qu'il y en a qui suggèrent, même avant le déluge, ou en tout cas pas longtemps après le déluge, Job, ce serait un livre ancien, puis un patriarche assez ancien, un homme qui a vécu assez... Puis dans le texte de Job, il y a des animaux qui sont décrits qui sont géants, là. Des animaux qui sont effrayants et géants dans le texte de Job, puis on va y revenir. C'est qu'il y a beaucoup d'indices bibliques à ce niveau-là, puis lorsqu'on va dans les fossiles, bien ça, écoutez, on a énormément. C'est particulier de considérer dans les fossiles beaucoup, beaucoup de fossiles d'hommes, ou ce que les évolutionnistes vont dire, des hommes qui n'étaient pas encore rendus des hommes, là, des whatever, là, Australopithèque et autres, étaient grands, OK? Grands. Et chez les animaux, la même chose, là, des castors géants, des trucs qui ressemblent à nos espèces d'aujourd'hui, mais juste en plus grand, tu sais. Sans parler des dinosaures, je veux dire, évidemment. Puis même chose avec les végétaux aussi, des arbres géants, etc. Bon, une façon d'expliquer ça, bien, je pense que la façon qui explique le plus ça, puis là, ça explique deux choses en même temps aussi. Parce que l'autre chose, c'est que les gens vivaient vieux. Ça, c'est les Écritures qui nous le disent. On voit dans le texte comment que les gens vivaient vieux. Puis on constate qu'après le déluge, il y a eu une décroissance marquée, là. C'est clair que ça a déjà commencé à décroître avec le déluge, mais beaucoup plus vite après le déluge. Lorsque vous regarderez les généalogies, vous allez voir que les années baissent assez rapidement de 700, 800, 900 à 200, 300, 400, assez vite, OK, dans les générations. Mais bon. La couche d'eau, à mon avis, est l'explication pour ces réalités-là. Parce que, première chose, c'est que la couche d'eau devait faire office de protection assez majeure contre tout ce qui aurait pu être nocif de la part des rayons du soleil ou des rayons cosmiques quelconques. On le sait aujourd'hui que la couche d'ozone nous protège en partie de ça, moins qu'on en a. Puis là, il y a toute la question qu'il faut se crémer avec des chiffres plus élevés. Mais il y a toute cette question-là. Donc, imaginez-vous avoir une couche d'eau, pas juste une couche d'ozone, une couche d'eau de je ne sais pas combien de mètres ou peu importe kilomètres, je n'ai pas idée, mais vraiment avec la vapeur d'eau, des molécules qui sont grosses, qui sont là. Il y a une protection contre tout ce qui pourrait être nocif. Bon, c'est évident que Dieu crée le soleil. C'est pas mauvais le soleil, mais Dieu crée aussi en même temps la couche d'eau pour nous protéger de ce qui pourrait être mauvais du soleil. T'sais. C'est clair qu'au niveau génétique, les gens étaient mieux protégés. Puis c'est même prouvé qu'il y a des mutations qui sont causées par des rayons cosmiques, qui causent des mutations dans les organismes au niveau de la génétique. C'est qu'avoir ça, c'est avoir une protection pour notre santé accrue. avec la couche d'eau. Ça, c'est bon pour toutes les espèces vivantes, que ce soit végétaux, animaux ou nous-mêmes. C'est que ça pourrait expliquer la meilleure santé et la meilleure longévité aussi. C'est sûr que quand le péché est entré dans le monde, du moment où Adam et Ève ont péché, donc même avant que la couche d'eau disparaisse, on a commencé à avoir quand même un problème parce que le péché entrant dans le monde, lui-même vient créer le désordre même dans la perfection de la création de Dieu, même dans les organismes, OK? Parce qu'avec le péché, le péché a amené quoi avec lui? A amené la mort. On n'était pas supposé mourir. C'est que le vieillissement, il y a de quoi qui s'est passé dans nos corps puis dans le corps des animaux qui fait en sorte que le péché a modifié de quoi, là? Au niveau, peu importe qu'est-ce qu'il a modifié au niveau génétique, mais c'était physique, son impact sur la création. C'est que même avant la disparition de la couche d'eau, déjà, on avait un effet négatif de la présence du péché dans le monde. C'était pas aussi parfait que ça l'était au début. Mais évidemment que les gens, au niveau génétique, tout était parfait au début. Ça a pris du temps avant que la génétique commence à s'affaiblir. Ça a pris quand même plusieurs générations. Il a fallu que le péché soit, tu sais, que ça fasse plus longtemps que le péché soit dans le monde puis que ça l'affecte parce que là, on se reproduit puis là, on donne nos défauts génétiques à nos enfants puis bon, les maladies, etc. Fait que l'autre chose que j'ai mentionné rapidement puis qui va dans le même sens de la santé puis dans ce cas-ci du gigantisme, petite parenthèse avant, là, je vois dans mes notes avant d'aller trop vite. J'allais mentionner l'autre fois aussi, pour ceux que ça l'intéresse, une des méthodes de datation qui était populaire, je ne sais pas si elle est encore autant, c'est le carbone 14. Puis je l'avais mentionné rapidement que le carbone 14, c'est vraiment les molécules de carbone qui sont dans l'atmosphère. Lorsque les rayons cosmiques frappent les molécules, ils sont transformés dans leur isotope, là, peu importe les termes, là, le carbone est modifié dans un de ces molécules semblables. On va utiliser des termes un peu n'importe comment, là. Mais l'idée, c'est que ça, c'est basé sur un apport de rayons cosmiques qui vient en provenance de l'univers. Imaginez-vous qu'à cette époque-là, vous aviez une couche qui protégeait justement, qui influait sur le taux des rayons qui pouvaient rentrer dans l'atmosphère. C'est clair que le carbone 14, avant le déluge, ça n'a rien à voir. Les conditions étaient tellement différentes que la méthode de datation ne peut pas tenir debout parce que ces présuppositions n'étaient pas valables avant le déluge. Pour quelqu'un qui croit qu'il y a eu déluge, qui croit donc qu'il y a eu couche d'eau. T'sais. Donc ça, je voulais juste le mentionner pour ce qui est du carbone 14. Maintenant, imaginez-vous qu'on a une couche d'eau au-dessus de l'atmosphère. Ça a du poids, cette histoire-là. Vous savez que vous avez du poids actuellement au-dessus de votre tête parce que l'air, c'est pas rien. Il y a des molécules là-dedans. C'est qu'on a une pression sur nous. On appelle ça la pression atmosphérique. Ça a 101,3 kilopascal. Mais imaginez-vous qu'en plus, de l'atmosphère qui pèse sur vous, vous auriez eu une couche d'eau sous forme de vapeur par-dessus cette atmosphère-là qui, elle, se fait attirer par la gravité, par la Terre, puis qui est maintenue là. C'est que c'est clair que l'atmosphère devait être plus comprimé, il y avait du poids qui serrait. Là. C'est comme si la croûte de pleure d'orange serre sur l'espace d'air. Puis là, tu te ramasses à vivre dans un environnement avec une pression augmentée. Je ne dis pas qu'Adam et Ève, ils sentaient puis ils marchaient de même. Là. C'est juste qu'il y avait certainement considérablement plus de pression qu'il y en a aujourd'hui. Puis là, je vais venir à l'impact de ça. Oui, Esther? Ah, j'en parle, OK, c'est ça. Donc, peu importe c'est quoi le chiffre, ce n'est pas dit nulle part. Mais une chose est claire, c'est qu'augmentation de pression, ça, c'est prouvé, c'est prouvable. Si tu as plus de pression dans l'air, ça veut dire que tu as plus de concentration des gaz qui sont importants aussi pour la vie, entre autres l'oxygène et le dioxyde de carbone, le gaz carbonique. Ça veut dire que tu te ramasses avec des plus grosses concentrations de ces gaz-là aussi dans ton sang, en tant qu'être vivant, parce qu'on le sait que ça fonctionne un peu de même. Puis ça fait en sorte que tous les procédés dans ton métabolisme, que ce soit de guérison ou de performance quelconque, sont augmentés parce que tu as juste plus de gaz, là, plus de jus pour faire rouler les affaires. Puis ça, c'est prouvé. Là, j'en ai parlé rapidement. Les chambres hyperbares, c'est rendu que tu peux t'acheter une petite. Je ne sais pas qui checkait ça. C'était pas toi, Simon, qui voulait s'en acheter une. Dirais voir Simon, il voulait s'en acheter une. Il est couvreur, hein, c'est qu'il fait de l'argent. Non, mais ils vendent plus juste des chambres. Tu peux avoir une chambre, mais tu peux avoir ton propre caisson personnel hyperbare. Là. Tu t'achètes ton caisson, tu te couches dedans le soir pour être plus en forme le lendemain. Il y a toutes sortes de modèles. Tu sais, les Chinois, ils en vendent, sont sûrement plus cheap que si vous l'achetez ailleurs. Là, mais, bon. Mais c'est vrai tout ça, ce que je dis là. C'est qu'est-ce que ça fait, ces chambres-là? Ça le dit hyper basse. Ça fait juste augmenter la pression de l'air. C'est que tu t'envoies là, puis juste le temps que tu passes, mais ton système, dans le fond, va bénéficier de l'augmentation de concentration des gaz. Puis ça l'aide carrément à la guérison. Les professionnels ont accès à ça souvent, c'est que les guérisons sont accélérées pour qu'ils retournent vite dans leur équipe pour faire de l'argent. L'apnée.
Mm-hmm.
C'est peut-être dans le même sens, je ne connais pas ça, mais ça se peut. C'est que, oui, c'est con. Ça, puis je pourrais vous donner plein de... Ça, si vous voulez trouver des exemples, il y en a. Puis dans les sites créationnistes, ils ont bien du fun à sortir ces exemples-là. Mais c'est possible de recréer des conditions comme ça, même dans des serres, pour faire grandir des plantes puis des légumes. Je sais que moi, j'avais déjà entendu un exemple au Japon où il y avait... Il était capable de faire grossir des tomates géantes dans des serres, justement, des serres hyper basses qui augmentaient la pression. C'est que ça augmentait le taux de croissance de carrément des légumes ou des fruits en changeant les conditions environnantes de pression. C'est que, imaginez-vous ça, d'avoir ça à l'échelle planétaire. On peut facilement s'imaginer que ça expliquerait la longévité des gens. C'est que la guérison est plus rapide. Ta santé est meilleure, ton métabolisme est meilleur, ton efficacité est meilleure dans tous les niveaux. Ça fait juste du sens que tu vives plus longtemps. Puis pas juste ça, c'est que ça augmente le taux de croissance aussi. C'est que pour mille raisons, le vieillissement ou était empêché ou retardé, se faisant en sorte que les gens, comme les animaux, pouvaient grandir plus grand, pouvaient devenir plus grands. Puis une des autres choses que ça, c'est même pas... c'est à l'université même que je l'ai appris. Là, c'est pas quelque chose que j'ai vu dans un site créationniste quelconque, mais... Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est chez les reptiles. Les reptiles, quand tu fais des études sur leur taux de croissance, ils ont un taux de croissance qui semble illimité. Okay? Si illimité, c'est vraiment parce qu'il y a une trop grande compétition pour la nourriture. Il y en a trop dans un même endroit, puis il manque de bouffe. Dans le fond, c'est qu'à un moment donné, il arrête de grossir parce qu'il n'y a juste pas assez de bouffe pour la population. Autrement, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas les contraintes au niveau de la bouffe, au niveau de d'autres choses, ils pourraient grossir pas mal plus. OK? C'est qu'imaginez-vous, moi c'est une théorie comme un autre, là, mais je vous propose, dans le fond, des dinosaures, c'est juste des reptiles plus gros, OK, on s'entend. Là. Puis vous verriez bien des dinosaures, des reptiles de nos jours qui ne sont pas gros, mais sont assez épeurants, puis on pourrait s'y imaginer plus gros. Vous avez certainement vu, on a des reptiles de nos jours là, qui couraillent dans les bois avec des grands flaps de même. Là. C'est pas juste dans les films, là. Il y en a pour vrai, je pense, en Afrique, à quelque part, là, en tout cas. Il court sur deux pattes, là, puis je ne me rappelle plus c'est quoi le nom. Mais là, bon, des fois, on ne sait plus si on l'a vu dans un film ou c'est pas vrai dans un documentaire, mais ou juste les dragons de Komodo, là, c'est gros en scie. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des varans aussi, c'est des gros lézards. Puis des fois, il y a sur certaines îles où que la population est moindre, c'est plusieurs mètres de long. Là. C'est que ça peut bouffer un être humain, là. Il y a de la place là-dedans. Là. Les crocodiles, vous en avez entendu parler des crocodiles. Des fois, il y en a des crocodiles géants, on en trouve moins. Mais entre autres, au Congo, ils en ont trouvé un récemment. Il y a des grandes régions marécageuses au Congo. Congo-Brazzaville, là. Celui, pas la RDC, mais l'autre. Il y a des grosses régions marécageuses inhabitables. Il n'y a pas grand monde qui vont là. C'est juste pas possible de voyager là. C'est que si tu y vas en genre de pirogue, là. Mais c'est grand, là, c'est des centaines de kilomètres carrés, là, c'est immense. Mais encore récemment, là, tu vois ça tout le temps dans les nouvelles du journal de Montréal, là, il y a tout le temps, des fois, quelque part, un crocodile géant qui s'est fait attraper. Mais des affaires, là, je ne m'en rappelle plus des chiffres, là, mais ça passe le 20 pieds, là, ça commence à être gros comme crocodile. Là, en tout cas, tout ça pour dire que si les reptiles, leur taux de croissance n'aurait pas d'occasion d'être limité, on pourrait s'imaginer avoir du gigantisme chez les reptiles. Ça commence à ressembler un peu à nos dinosaures. Je ne vous dis pas que tous les dinosaures que vous voyez dans tous les livres de dinosaures sont tous aujourd'hui sous forme minuscule. Il faut juste les réassocier au bon. Là. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a eu des espèces éteintes en masse, comme chez les mammifères autant que les dinosaures. Mais le taux de croissance n'était certainement pas « impaired », n'était pas empêché. Puis en plus, on avait la couche d'eau, la pression, l'organisme, il pouvait juste croître plus vite. Puis là, je vous donne des petits exemples fun. Tant qu'à être là, j'en avais quelques-uns ici. Oui, c'est des stéroïdes. OK, c'est bon. Ça veut pas dire que bon, c'est ça. Tout le monde va commencer à prendre des stéroïdes à cause du cône. Bon, je vous donne des exemples ici qui expliqueraient certaines affaires qui sont difficiles à expliquer. Souvent, je faisais des liens entre des trucs que j'avais dans mes cours à l'université, puis avec cette information-là que bon, mes profs ne me donnaient pas. Puis des fois, je faisais des liens comme ça, là, cette idée-là du taux de croissance illimité des lézards, des reptiles. Bon, je pense que c'est une idée que j'ai eue, là, je ne mettrai pas un copyright là-dessus, mais je trouve que ça fait du sens quand tu joins ça avec l'information que tu as de la Bible. Dans le fond, l'idée, c'est pas moi qui l'ai, c'est juste que la Bible dit ce qu'elle dit. C'est ça l'idée, si on peut juste opérer avec le cadre biblique, puis on fait confiance, on a une compréhension de la création qui fait plus de sens. Beaucoup de dinosaures, tout du moins, semblent avoir des poumons trop petits pour leur grosseur d'organisme. Parce que lorsqu'on regarde les fossiles, on a les cages thoraciques, on peut s'imaginer la grosseur de leurs poumons. Puis ça cause problème souvent pour des évolutionnistes, ou en tout cas pour expliquer comment que ça fonctionnait. à cause de la grosseur du poumon. Sauf que si tu te ramasses avec une atmosphère avec une pression double ou augmentée, ton poumon, le poumon de ce dinosaure-là, pouvait fonctionner parce qu'il se ramassait, peu importe, malgré sa grosseur plus petite, avoir de toute façon plus de concentration d'oxygène par chaque bouffée d'air qu'il prenait parce que l'atmosphère était différente. T'sais. Des trucs comme ça là, qui étaient difficiles à expliquer. Les ptérodactyles, les dinosaures volants là, qu'on voit dans les films, ils ont vraiment existé. Il y a des fossiles de ça. Encore là, l'envergure de leurs ailes par rapport à leur poids, qu'on peut assumer lorsqu'on leur regarde le Saturne, le fossile, c'est difficile d'imaginer parce que, je veux dire, aujourd'hui, les ingénieurs en aviation et tout, on a compris comment faire des avions et avoir un temps de... une envergure d'aile pour supporter tel poids, tout ça. Il y a de la physique là-dedans. Là. Ça a rapport au fait que tu voyages au-delà de l'air qui a le même un poids. C'est que tu peux arriver à être supporté, s'il vaut, avec une certaine vitesse. Mais les ptérodactyles, de ceux qu'on a trouvés, basés sur la pression qu'on a et le genre d'atmosphère, c'est difficile d'imaginer même qu'il aurait pu voler aujourd'hui s'il y en avait un de vivant. Encore là, augmenter la pression, changer juste l'atmosphère, augmenter la pression atmosphérique, c'est des problèmes qui disparaissent tout d'un coup. C'est des petites affaires, je vous dis là, c'est juste le fun des savoirs. Il y en aurait certainement immensément d'autres. Là. Mais tout d'un coup, ça devient possible pour le ptérodactyle de voler dans l'atmosphère. Vous voyez toutes sortes de trucs. Puis je vous relance là-dessus aussi. Ça veut dire qu'à la création, à mon avis, tout le monde devait être pas mal plus grand à cause de ce que je vous ai dit là. Plus grand, plus robuste, fait plus fort. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, en passant, une petite parenthèse, je ne suis pas sûr qu'Adam ne pouvait pas ne pas se blesser. OK, on s'entend, là. Se blesser, avoir mal, c'est pas nécessairement négatif, OK? Parce que si moi, je me déchire un orteil sur le bord d'une écorce d'arbre, mais j'ai aucun système pour m'avertir, je vais pas me protéger avec une feuille de noix ou je ne sais pas trop, pour pas que l'infection pogne dedans, peu importe, OK? C'est pas nécessairement négatif, la douleur. La douleur, ça te dit qu'il y a un problème. C'est que là, une fois que tu le vois, là, tu peux remédier au problème. Ce que je vous dis là, c'est pas écrit nulle part, mais je suis pas sûr qu'Adam pouvait absolument, ou ses enfants pouvaient courir, puis c'est sûr qu'eux autres n'allaient jamais s'enfarger dans une racine d'arbre. Là, c'est comme, tu sais, c'était pas plat, là, dans le jardin d'Eden, il y a d'avoir des petits vallons des fois, puis il y a des arbres. Je veux dire, l'enfant, s'il court les yeux fermés, il va faire ça un arbre à un moment donné. Là, c'est que ça fait mal, mais ça veut pas dire que c'est mauvais d'avoir mal. Mais sauf que la guérison devait être rapide en Titi, par exemple, dans les conditions qu'il y avait là. C'est que des fois, je fais juste... le but de tout ça, là, ici, que je vous dis là, c'est juste d'avoir une image peut-être un petit peu... ce qu'on pense être bien ou idéal, des fois, c'est peut-être pas ce qui était à l'époque. L'autre chose, c'est que des fois, on trouve... il y a beaucoup de fossiles qui sont trouvés d'êtres humains, puis il y a beaucoup d'interprétations. Dès qu'on voit des fossiles, on s'imagine... là, avec la façon dont le crâne est fait, les arcades sourcilières ici au-dessus des sourcils, le fait que c'est plus rough ou plus robuste ou plus rough comme charpente. Puis là, ils nous dessinent des affaires dans un livre d'éducation pour la préhistoire. Les hommes préhistoriques ont tout le temps de l'air des débiles. Hein? C'est automatique. Il faut qu'ils aient l'air penché, des gros flibles, ils ont tout le temps de l'air des gros grognons. Là. Il y a énormément d'interprétations. Là. Pourquoi tout d'un coup, à cause que le squelette que j'ai trouvé avait des arcades sourcilières plus prononcées, il est tout d'un coup plus débile? Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, il y a des peuples aujourd'hui qui ont des morphologies différentes des nôtres. Si on regarderait le squelette, entre autres en Afrique, des peuples pygmées ou ailleurs, typiquement, leur crâne, boîte crânienne, est différente dans leur morphologie. Il y avait juste des tendances. C'est pour ça que l'évolution, ça vient tendancieux, à un moment donné, ça vient dangereux, parce qu'on a plusieurs peuples aujourd'hui, ils ont évolué à différentes cadences, différents niveaux. C'est tendancieux comme théorie dans ce sens-là aussi. On croit que tous sont des êtres humains, tous sont égaux, puis c'est pas parce que tu es plus petit ou ta morphologie est différente que tu es plus ou moins nono. Mais cette idée-là encore, c'est une interprétation. C'est que peut-être qu'Adam et Ève, je ne sais pas, peut-être qu'Ève ne l'aurait pas trouvé cute. Là, je veux dire, ça, c'est quoi la beauté? C'est très relatif. Mais peut-être qu'ils étaient très charpentés, très grands pour vivre, être juste résistants dans leur environnement, être juste whatever, résistants à se péter à fiole, je ne sais pas. Puis peut-être qu'il y avait des arcades sourcilières plus prononcées. Puis je veux dire, c'était à la mode à l'époque. Moi, ça donne juste que les publicités que je vois, ils n'ont pas des arcades sourcilières prononcées. C'est que j'ai jamais appris que c'était beau. Mais bon, à l'époque, s'il y avait juste Ève, c'est sûr que Caïn et Abel avaient juste leur mère à voir. Éventuellement, il y avait juste leur sœur qui avait toutes des arcades comme pareil. Puis, de toute façon, il y avait juste les sœurs parmi lesquelles choisir. Ils devaient être trouvées belles. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux? Peut-être pas. Là, je pourrais te déblater. Oui, Caïn et Abel ont marié leur sœur. Oui. Bon, c'est répondu, on l'a dit. D'ailleurs, à l'époque, cette loi-là des mariages inter-famille a été interdite par Dieu clairement dans les lois au peuple d'Israël. Éventuellement, on le voit. Maintenant, Dieu en a fait une loi. Peu importe, Dieu n'est pas obligé d'avoir une raison particulière qu'on comprend pour obéir à sa loi. Mais aujourd'hui, on comprend que la consanguinité, le fait d'avoir une relation dans l'intérieur de ta famille, si tu as des maladies ou des déformations génétiques qui ça fait une couple de générations qui traînent dans ta famille, ça ne veut pas dire qu'ils sont exprimés, mais ils peuvent être latentes. Ça veut dire qu'ils peuvent être là dans tes gènes. Mais vu qu'on se marie pas à l'intérieur des mêmes familles, mais à l'extérieur, les chances de frapper quelqu'un d'autre qui a le même problème latent génétique sont moindres. C'est les chances de donner naissance à un enfant qui a des déficiences génétiques graves sont moindres. C'est que les rois britanniques, tout ça, à une époque, n'avaient pas compris ça. Il y a eu beaucoup de problèmes lorsque on peut faire des études là-dessus sur des arbres généalogiques de certaines familles à des époques du Moyen Âge. Je trouve qu'il y avait beaucoup de mariages inter-famille pour des whatever, le politique, ou c'était à la mode à l'époque. Mais il y avait des problèmes carrément. C'était souvent caché parce que c'était pas bien vu. Mais il peut y avoir des problèmes dans les enfants au niveau génétique, des malformations, toutes sortes de trucs. C'est que le consanguinité, de toute façon, c'est pas super brillant, c'est pas super bon. C'est parce que Dieu le dit qu'on obéit, là, c'est pas pour ça, mais je pense que Dieu sait fort bien qu'est-ce qui est aussi mis comme loi à l'époque au niveau du peuple d'Israël. Mais avant que Dieu mette cette loi-là, il n'y avait pas tout le bagage génétique mauvais qu'on a aujourd'hui. On était au début de tout, le péché n'avait pas fait son œuvre autant qu'il l'avait fait 2000 ans après la création d'Adam et Ève, 2500 ans après. C'est que je veux dire, rendu là, si Dieu dit tu peux marier ta sœur, je veux dire, oh, whatever, tu maries ta sœur, tu sais, bon, tu n'auras pas nécessairement un enfant. Caïn et Abel, certainement, ont choisi des femmes parmi leurs sœurs, puis on en reviendra à ça, là, parce qu'on n'a pas toute la liste des enfants d'Adam et Ève, mais ils en ont eu en masse. Là, je veux dire, Dieu leur a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Là, il ne pas dire, regardez-vous dans les yeux là, pendant 3 ans. C'est qu'ils ont obéi au commandement. C'est clair qu'Adam et Ève étaient des gens qui, même après le péché, on a beaucoup d'indices clairs, je viens à toi, Esther, qui ont mis leur confiance en Dieu, Adam et Ève, puis que ça a été des gens qui ont été justifiés par leur foi. Et puis... Donc, évidemment, ils ont eu en masse d'enfants. On a même un verset qui nous en parle, qui ont eu des fils et des filles. Puis même qu'on va arriver à Caïn et Abel, c'est pas... Je reviendrai à ça. Tout n'est pas si clair non plus au niveau là, du... J'y reviendrai. Je ne vais pas m'avancer sur le sujet, là, mais c'est ça. Ça n'a pas dû être long. Toute l'histoire qu'on a dans Genèse 1, 2, 3, là, même au niveau de la chute, ça s'est passé très rapidement. Okay? Puis on peut s'imaginer pour plein de raisons. Okay? Ça s'est passé assez rapidement, toute cette histoire-là. Oui, Esther.
Dans une conférence de
Guy Leduc,
il avait parlé de bagage génétique. Autant, qu'il disait, c'est qu'au début, le bagage génétique était plus dans le bon, là. Il était plus varié.
Oui, c'est une d'avance. Là. Bon, oui, mais c'est correct, si tu veux. Ouais.
Oui.
Parce qu'on en a moins de toute façon.
On en a beaucoup moins de choix. Puis quand il y avait beaucoup de choix,
bien,
un frère, une
sœur,
un frère,
bien,
totalement différent.
Tout à fait. Assez différent pour un qui soit noir, puis l'autre soit blanc. Puis l'autre a des traits asiatiques. On s'entend. Parce qu'Adam et Ève, il n'y avait pas un enfant noir. Tu sais, Sam n'était pas noir, Cham n'était pas jaune, puis Japheth n'était pas blanc. C'est pas l'explication pour les différents peuples. Mais oui. Oui. Exactement. Ouais. Mais c'est sûr que ça avait rapport avec le péché dans le monde qui a amené la mort, parce que le péché en amenant la mort, il amène de quoi qui détruit, là, tu sais, puis aussi, évidemment, ça. Mais ça, je vais y revenir parce que, dans le fond, dans le cours que je vous donne, il y a trois comme points, OK, qui sont souvent mal compris ou qui n'ont jamais été entendus puis qui font une grosse différence dans la compréhension des premiers chapitres de la Genèse puis dans la compréhension de la création. Il y en a déjà deux qu'on a mentionnés, OK? Le premier point qu'on a mentionné, je suis revenu souvent, c'est l'apparence d'âge. OK? Le concept d'apparence d'âge, c'est quelque chose des fois qui... C'est peut-être la première fois de votre vie que vous l'avez entendu il y a quelques semaines quand on en a parlé. Puis c'est quelque chose de très important pour désamorcer une crainte par rapport aux méthodes de datation, par rapport à l'évolution, parce qu'on comprend c'est quoi l'apparence d'âge quand il y a une création. Ça, c'est un point super important. Le deuxième point super important qui est juste négligé, mais dans le récit biblique, c'est la couche d'eau. L'existence de la couche d'eau a amené énormément de différences d'avec maintenant. C'est ce qu'on est en train de voir. Si je vous disais, c'est un deuxième point, des fois, qui est juste pas compris parce qu'on ne l'a jamais enseigné ou peu importe. Ça ne va pas changer votre vie demain matin, là, mais ça aide à comprendre les choses, ça donne la confiance sur le récit biblique versus ce qu'on entend. Puis le troisième point, Esther vient de l'effleurer, mais je vais y arriver plus tard parce que j'aime mieux l'expliquer en long en large. C'est toute la question de la sélection naturelle, la variabilité dans le matériel génétique au début. Mais là, j'utilise des termes là, pour vous impressionner. Wow. Mais le point, c'est que je vais arriver à ça. Toute l'idée que la sélection naturelle, ce n'est pas de l'évolution, c'est de la sélection naturelle, c'est quelque chose de très biblique, qui va dans le sens, justement, d'une création parfaite qui devait être équipée au niveau génétique, d'un grand, grand potentiel de variation puis énormément d'informations pour justement être capable de faire face à peu importe l'environnement. Je ne veux même pas en parler aujourd'hui, mais est-ce qu'on va y revenir là-dessus? Bon. Dans le fond, ça termine la deuxième journée. Je voulais parler un peu plus des implications de la couche d'eau, et voilà. Bon, comme vous avez vu, il y a plusieurs de choses qu'on a sorties de nos observations. Mais ça, c'est un point important, puis un point qui est super clair dans le texte biblique. Oui, Esther. Non, il n'y a pas de problème.
Le texte de tantôt, c'est 2 Pierre 2, 5.
2 Pierre 2, 5. Veux-tu le lire, s'il te plaît? Oui. Oui, c'est intéressant parce que dans ce texte-là de 2 Pierre 2,5, ça dit « S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé. » Mais vu que Noé est comme le point de transition entre l'ancien monde et le nouveau monde, puis il y a vraiment une appellation d'ancien monde. C'est l'idée que les choses étaient, quoique pas si différentes, mais je dirais quand même pas mal différentes d'aujourd'hui. Okay? C'était pas mal différent d'aujourd'hui. Juste de ne pas tout vivre, ce que je viens de vous dire, là, ben imaginez-vous ça, c'est pas mal différent. Les choses ont vraiment changé. Et puis, il n'y a pas grand monde qui avait connu l'ancien monde, à part Noé, sa femme, ses trois fils, puis leur femme. C'était les seuls qui pouvaient en parler à leurs enfants, mais parce que tout le reste est mort. OK, on n'avait pas l'ancien monde. OK, troisième jour. Il nous reste une dizaine de minutes. On va s'embarquer dans le troisième jour. Si vous avez d'autres questions, commentaires, vous levez la main, je vais vous spotter. Dieu dit, verset 9, que les eaux qui sont au-dessous du ciel, donc on parle du ciel étant l'étendue, il nous l'a spécifié au verset avant, donc les eaux au-dessous, c'est les eaux qui sont directement au niveau du globe, que ces eaux-là s'amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela terre, même mot que la terre au verset 1 du chapitre 1. Donc Dieu appelait terre la partie sèche. Et il appela mer, moi dans ma version au pluriel, la masse des eaux. Dieu vit que cela était bon. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre se couvre ou produise de la verdure, d'herbes porteuses de semences. Excusez-moi. Que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers donnant sur la terre des fruits selon leur espèce. Et ayant en eux leurs semences, il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un troisième jour. Donc, on était rendu au point, début du troisième jour, et on n'avait pas encore de solide de créer. Dieu va faire en sorte que le solide apparaisse d'à travers l'eau qui était sur la terre, que d'à travers l'océan sans rive qui était au-dessus. Ça ne nous dit pas dans le texte au niveau chimique comment Dieu a fait les choses, mais on voit dans la façon que c'est dit. Dieu dit, dans le fond, Dieu n'a pas créé le sec dans le sens à partir de rien. Il a fait ramasser les eaux en un seul endroit. Puis, par le ramassage de l'eau à un seul endroit, le sec est apparu. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit le texte, ça peut être mélangeant, mais dans l'hébreu, ça serait moins mélangeant si on lisait l'hébreu. L'idée, ce n'est pas nécessairement qu'il y avait un seul océan au début. Okay? C'est que l'eau s'est regroupée comme une entité qui se retrouvait dans son endroit à elle. Mais ça veut pas dire, l'expression ne veut pas dire qu'il y avait un seul endroit puis un seul continent, un seul mer puis un seul continent. C'est plus que l'eau maintenant n'était pas plus mélangée à la matière en dissolution à l'intérieur d'elle. Cette matière-là était rendue solide, probablement c'est à ce point-là que la croûte terrestre a été formée jusqu'à son noyau. Même le noyau, tout ce qui est devenu solide de la croûte jusqu'au milieu de la terre a probablement été formé à ce moment-là. Dieu a pris les molécules qui étaient déjà présentes dans l'eau. Il a fait en sorte une forme chimique, physique quelconque. Là, j'extrapole, c'est pas marqué dans le texte, mais c'est pas de la création ex nihilo. Dieu a formé les éléments déjà présents de la matière en une matière solide, puis il a amené l'eau à être dans un seul endroit. Puis dans le processus, l'eau s'est ramassée. C'est fort probable qu'il y a eu du mouvement d'eau, il y a eu des rivières, des canaux souterrains qui se sont développés du même coup que ça se formait. L'idée, peu importe, c'est qu'à la fin de tout ça, on se ramasse avec de l'eau à sa place puis du solide à sa place. C'est vraiment ça l'idée dans le texte original.
Vous dites? Quand tu parles de la gravité, le mouvement titanique, si tu veux, de la plate tonique, les tailles qui ont bougé, que l'eau...
Mais à ce point-ci encore, à ce point-ci, je comparerais pas nécessairement ça au déluge. C'est vraiment que là, pour la première fois, Dieu fait en sorte que les éléments se réunissent pour former le solide. Mais en formant l'eau, en se formant, il y a eu probablement, on a un texte parallèle, il faudrait que j'aille voir dans le psaume, où est-ce que les montagnes se sont formées, les rives du même coup, les vallées aussi, c'est qu'il y a une allusion à ce temps-là, où ce que Dieu a regroupé les choses, puis les choses se sont placées. Maintenant, je le dis tout de suite, c'est que peu importe le nombre d'océans, puis comment que les rivières étaient configurées, il y en avait des rivières, vous irez les voir, on va aller voir le Jardin d'Éden, la géographie du Jardin d'Éden, il parle de plusieurs fleuves, qui était présent au moment d'Éden. Éden était situé par rapport à certains fleuves, c'est qu'il y avait des fleuves. On voit plus tard, là, lors du déluge, que Dieu va utiliser l'eau. L'eau pour le déluge va venir non seulement des écluses des cieux, mais va venir aussi des sources du grand abîme. Il y a vraiment une référence au fait qu'il y avait de la couche d'eau souterraine. Encore aujourd'hui, il y a énormément d'eau sous la terre, sur la planète. Il y a des nappes phréatiques partout. À l'époque, Dieu s'est servi de ça aussi comme source d'eau. Ça l'a jailli pour faire un apport d'eau pour le déluge. Le point qu'il faut se rappeler, c'est que tout ça, là, toute cette topographie-là, puis cette géographie-là, a carrément été chamboulée au déluge. C'est que partez pas demain matin, c'est de trouver le Jardin d'Éden en Turquie, quelque part, là, vous le trouverez pas. Là, on a une description d'une géographie qui était vraiment de l'ancien monde, parce que le déluge va vraiment chambouler le tout. Parce que le déluge, ce ne sera pas juste une flaque d'eau qui est tombée sur la planète. Là. On va le voir, c'est beaucoup plus chamboulant que ça. L'idée vraiment à ce point-ci, c'est qu'on se ramasse avec de la surface dure sur laquelle Dieu va pouvoir créer la prochaine affaire, la végétation, qui va éventuellement servir de nourriture pour les êtres vivants qu'il va créer. Donc, il avait besoin du solide. C'est vraiment ça l'idée dans le texte ici. Dieu crée le solide et du même coup, il différencie les mers d'avec les continents. C'est qu'à savoir à quoi ça ressemblait. C'est que toute l'idée, là, vous allez voir ça dans la télévision, dans les documentaires, dans le milieu évolutionniste, qu'il y avait un seul continent à un moment donné qui s'est fractionné. Okay? Puis la question du mouvement des plaques tectoniques, qu'il y a des plaques sur la croûte terrestre qui bougent, puis que c'est même calculable et calculé. On peut voir un déplacement. On va y revenir, mais je crois que tout ça a référence au déluge. Suite au déluge, il y a des choses qui se sont passées qui ont même des répercussions aujourd'hui ou qui expliquent qu'est-ce qui semble avoir déjà été un casse-tête qui n'en est plus un. Okay? Mais ça n'a rien à voir avec avant le déluge. Avant le déluge, il n'y a pas nécessairement un continent qui a été scrappé au déluge en morceaux. Okay? On s'entend? Le texte dans l'hébreu, c'est loin de dire ça, qu'il y avait un seul océan. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, dans les traductions, des fois, c'est pas clair. Au début, il dit « en un seul endroit ». Puis là, on comprend cette expression-là comme une seule mer, mais plus tard, on voit que Dieu, au verset 10, il dit qu'il appelle la partie sèche « terre », puis il appelle « mer » au pluriel la masse des eaux. Le mot est vraiment pluriel, c'est que c'est vraiment que les eaux en soi sont à plusieurs endroits, mais sont séparées de la terre sèche. Fait que là-dessus, je ne pense pas que j'ai d'autres choses à dire sur cette partie-là du troisième jour. Bien, c'est sûr qu'ultimement, l'eau est toute reliée ensemble. Peut-être que c'est un autre sens que veut dire le seul endroit, parce que l'eau, dans le fond, par les souterrains, par les rivières et les ruisseaux, et par, il y a tout, c'est tout connecté ensemble ultimement. C'est ça, exactement. C'est qu'il y avait toute une connexion ultimement là, de l'eau ensemble, sans avoir nécessairement le système hydrologique avec les nuages qu'on a aujourd'hui. C'est que là, il me reste dans le fond une minute. Je vais juste vous mentionner qu'on va être rendu. On va être rendu au niveau de la création de la végétation le prochain coup. Puis prenez juste le temps de. Si vous voulez relire des fois le chapitre 1, c'est intéressant de regarder les expressions utilisées. Encore là, Dieu va vraiment se servir de la terre comme matière première pour créer la végétation. On va dire que la terre produise. Puis la végétation, dans le fond, là, c'est un assemblage aussi de minéraux et de molécules différentes qui se retrouvent aussi dans la terre. À la différence que dans la végétation, on va se ramasser avec une nouvelle sorte de création qui est capable de se reproduire selon son espèce. Dans la végétation, on va avoir sa graine, la semence, qui contient une information qui lui permet de se reproduire. Ça, c'est nouveau. C'est quelque chose que les roches n'ont pas. T'sais. C'est que ça va être nouveau dans la création à la fin du troisième jour. Fait qu'on va être rendu là. La prochaine fois, passez un bon